France Inter.
Aujourd'hui, agricultrice, les autres voix des champs, racontées par
Clotilde Bateau, co-déléguée générale de l'association Sol.
France Inter, la terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans l'imaginaire agricole, les silhouettes que l'on voit encore monter sur les estrades, signer les contrats, incarner la profession, sont le plus souvent masculines. Et pourtant, dans les champs du monde entier, une autre réalité travaille en silence. Les femmes produisent une part essentielle de notre alimentation. Elles tiennent les exploitations à bout de bras, gèrent les comptes, organisent les récoltes, prennent soin des équipes, des bêtes, des sols. Leur travail est partout, mais leur visage reste souvent absent. Longtemps, elles n'étaient même pas nommées. Le mot agricultrice n'entre dans le dictionnaire qu'en 1961. Pendant des décennies, elles ont été décrites comme des aides, des épouses, des travailleuses invisibles. Aujourd'hui encore, elles représentent près de 40% de la main-d'œuvre agricole mondiale, mais possèdent une infime part des terres. En France, leur présence à la tête des exploitations stagne depuis 20 ans. Beaucoup travaillent sans statut reconnu, gagnent moins, cotisent moins, partent avec des retraites plus faibles, tout en assumant une charge physique et mentale considérable. Ce paradoxe est vertigineux, celle qui nourrit le monde reste parmi les plus précaires de la profession. Pourtant, les études le montrent, leur donner un accès égal aux ressources, au crédit, à la formation pourrait réduire significativement la faim à l'échelle mondiale. Derrière la question agricole se cache donc une question politique et sociale, profondément humaine. Quelle place accorde-t-on à celles qui cultivent la terre ? Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Trop fière de toi.
Je pense que nous, on se met des barrières, en fait. On a peur de pas y arriver, de faire une fausse manipulation. Tu vois, les petits garçons qui jouent avec les tracteurs, les modèles réduits et les remorques qui font des créneaux et tout. Et en fait, ils ont qu'une envie, c'est de conduire avec papa. Et pourquoi nous, on n'a pas cette envie-là ? Moi, je pense que c'est un blocage psychologique sexiste, en fait.
Céline, qu'on vient d'entendre, éleveuse de chèvres en Ardèche, reportage de Brut en 2024. Bonjour Clotilde Bateau.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Périgrine un essai en forme d'enquête qui est intitulé « Agricultrice, semer, nourrir, résister ». Vous racontez qu'un jour, vous avez assisté à une conférence sur le rôle des agriculteurs où aucune femme n'était invitée à témoigner. C'était pour vous le point de départ de votre réflexion sur ces inégalités de genre dans le secteur agricole ?
Bah oui, exactement. C'est vrai que quand on pense au mot agriculture, on pense de manière générale souvent à un homme. Et pourtant, vous l'avez dit en introduction, ce sont les femmes qui, sur le monde, dans la planète, nourrissent la majorité d'entre nous. Et c'est vraiment ce paradoxe qui m'a donné envie de m'intéresser au sujet. Et puis, bah, c'est comme ça que le livre est né. Mais aussi à travers mes expériences de terrain avec l'association Sol, qui agit pour défendre et porter cette agroécologie paysanne qui est partout dans le monde majoritairement portée par des femmes.
Vous n'êtes pas agricultrice vous-même ?
Voilà, je ne suis pas moi-même agricultrice. J'ai plutôt passé du temps sur le terrain à accompagner des agricultrices, notamment en Inde.
Comment vous avez mené cette enquête exactement ?
Bah, c'est un an de travail, à partir de mon réseau, évidemment, hein, de paysannes, en France, mais aussi en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. C'est important aussi pour moi de valoriser aussi ces portraits-là. Mais aussi, je parle un petit peu de mon expérience en Inde et au Sénégal.
Qu'est-ce que vous avez fait là-bas, en l'occurrence ?
Alors, en Inde, j'ai démarré il y a 20 ans en accompagnant des groupements de femmes sur le terrain. Le premier objectif, c'était plutôt de développer leur programme agricole et alimentaire et donc de générer des groupes en non-mixité. On va sûrement en reparler. Et la force, en fait, de ces groupes en non-mixité, c'est à la fois d'avoir des enjeux techniques, d'apprendre des techniques agricoles, là, agroécologiques, mais aussi cette force du collectif qui leur permet une libération de la parole et de pouvoir développer aussi toute leur communauté aller au-delà de leur thématique agricole.
Vous donnez dans ce livre des ordres de grandeur sur la contribution des femmes à l'alimentation. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit ?
Oui, alors à l'échelle mondiale, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la FAO, donc la version onusienne qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, qui dit que effectivement, on a quand même 50% de l'alimentation mondiale qui est produite aujourd'hui par des femmes, et dans certains pays, notamment en Afrique, ça peut monter jusqu'à 80%.
C'est ça, 60 à 80% voilà. Dans certains cas. Ouais.
Donc c'est juste énorme, et quand on sait qu'on mange 3 fois par jour, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces femmes pour se nourrir au quotidien.
La main-d'œuvre agricole aussi ?
Voilà, 40% de la main-d'œuvre agricole mondiale sont aussi des femmes, et on retrouve un peu cette proportion d'ailleurs aujourd'hui en France aussi, hein, puisque c'est 20%, une femme sur 4 aujourd'hui qui est, enfin un agriculteur sur 4 qui est une femme en France, et 20% un peu plus qui sont chefs d'exploitation, donc à la tête de leur exploitation, et finalement le reste sont des ouvrières et des salariés agricoles, des femmes sans statut ou des femmes avec d'autres statuts.
Et alors ces femmes, elles possèdent quel pourcentage des terres agricoles ?
Alors à l'échelle mondiale...
Le chiffre, il est assez stupéfiant quand même.
Hein. Oui, tout à fait. À l'échelle mondiale, on est plutôt sur du 10%, hein, 10%. De terres. Mmh. Et à l'échelle française, on est à moins de 30% des terres qui appartiennent à des femmes.
Ouais. Pourquoi, alors justement, comment vous l'expliquez-vous que les agricultrices produisent moins que leur potentiel, parce que ce n'est pas du tout une affaire de compétences, évidemment. Comment on explique ça alors ?
Alors c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, hein, ce qui m'a vraiment frappée, au-delà de l'invisibilisation, c'est une invisibilisation historique qui s'est vraiment travaillée de siècle en siècle, dès le départ en fait, avec cette division genrée de l'agriculture, donc des tâches.
C'est quoi le départ d'ailleurs, quand vous dites dès le départ, c'est quel départ, hein,
alors,
historiquement
alors historiquement, je remonte au Moyen-Âge, et je dois dire que j'ai en plus eu de grandes difficultés, hein, à trouver des archives. J'ai dû vraiment fouiller, mais aussi des chiffres, puisque en fait, structurellement, les femmes n'étaient pas recensées dans l'histoire, tout simplement parce qu'en fait, elles étaient considérées comme des femmes d'eux. Et je donne souvent cette anecdote-là, et j'en parle dans le... Je crois pas que j'en parle dans le livre, d'ailleurs, de cette anecdote, d'une femme qui, devant le maire, le jour de son mariage, qui est donc installée avec son mari, le maire lui dit qu'elle est sans profession. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette histoire qui fait que les femmes ont été classées comme sans profession, de travail sur la ferme, sans reconnaissance du tout.
Alors que les études montrent qu'elles sont aussi productives, voire parfois plus que les hommes. Hein. C'est ce qu'on voit aussi à travers les chiffres.
Tout à fait. Alors là, c'est un chiffre mondial de la FAO, hein, qui dit notamment que grâce à leur productivité, si justement on donnait le pouvoir aux femmes finalement dans l'agriculture, on arriverait à diminuer la faim dans le monde de presque 17%. Donc c'est juste dingue.
Ouais, donc ces femmes, elles accèdent plus souvent donc à des exploitations plus petites, avec moins de moyens, ce qui les pousse aussi vers des systèmes différents et vers, d'ailleurs, c'est intéressant de faire un lien aussi avec l'agroécologie.
Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai constaté à travers toute mon enquête, c'est qu'effectivement, les inégalités structurelles qui sont générées, donc, c'est-à-dire le manque d'accès au foncier. Hein, donc, on a dit moins 30% des terres appartiennent aux femmes, mais il y a une inégalité structurelle aussi qui génère le fait qu'elles s'installent aussi sur des terres plus petites. Hein, en moyenne, 40% plus petites génèrent un manque de financement, les problèmes statutaires et le manque de reconnaissance sociale fait que elles ont dû au fur et à mesure des siècles s'adapter, innover à travers les crises climatiques notamment, aujourd'hui elles s'installent principalement en agroécologie, ces nouvelles agricultrices.
C'est ça, donc elles sont vraiment moteurs du changement mais elles restent encore absentes des lieux de décision dans ce domaine de l'agriculture.
Exactement, voilà, c'est un peu le constat qui est fait dans le livre, hein, donc absente des espaces de décision politique, et je l'ai moi-même vécu, hein, je me retrouve régulièrement dans les espaces politiques être la seule femme, et pourtant je suis moi-même pas agricultrice, donc il faut bien imaginer, absente aussi des espaces à tous les échelons, c'est-à-dire des syndicats, hein, moins de 15% de femmes présentes dans le monde syndical, à tous les échelons, national, régional, départemental. mais aussi dans les coopératives agricoles. Voilà, c'est un métier qui a été modelé par et pour les hommes, en fait.
Les mots, ils racontent beaucoup aussi, hein, vous en parlez, l'évolution des mots comme paysan, fermier, agriculteur, exploitant. Ça raconte aussi quelque chose d'une hiérarchie auquel les femmes n'appartiennent pas encore suffisamment.
Oui, alors en fait, j'ai essayé de comprendre, et vous l'avez dit en introduction, pourquoi le mot agricultrice n'était apparu dans le Larousse qu'en 1961. Mmh. J'ai trouvé ça assez incroyable.
Surtout quand il s'agit juste de féminiser un mot qui existe déjà. Hein,
Exactement. Et donc j'ai essayé de comprendre à travers ça, pourquoi en fait, finalement, à travers le mot, est-ce que les mots avaient évolué? Et puis, souvent, on me demande pourquoi tu utilises le mot agricultrice, pourquoi tu utilises le mot paysanne, et j'ai eu aussi à cœur de montrer ça dans le livre, comment à travers le vocabulaire on montre aussi comment le monde agricole évolue.
Ouais, et alors c'est quoi le bon mot à utiliser finalement aujourd'hui? Agricultrice, j'imagine, puisque c'est le titre de votre livre.
Voilà, agricultrice, on peut dire effectivement aussi paysanne. Pourquoi paysanne? Parce que c'est originellement, le mot paysan, c'est l'habitant du pays. Et finalement, originellement, tous les êtres humains sont des paysans. Voilà, au temps préhistorique, on vivait tous en zone rurale. Et c'est important de pas l'oublier. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui un terme symbolique qui est très important.
On va écouter. C'est Mathilde, 24 ans, éleveuse envers et contre tout, extrait d'une vidéo brute en 2023.
Mon père a tenu toujours un discours en disant qu'aucune de nous deux, donc j'ai une petite sœur, ne devait reprendre parce qu'il voulait pas de cette vie pour ses enfants, parce que c'était trop dur. J'ai fait infirmière, 3 années d'infirmière. Moi, ce que je voulais, c'était intégrer l'armée pour faire infirmière militaire. Et du coup, je disais à tout le monde, oui, si je fais pas militaire, je finirai paysan. Je me suis dit, le jour où tu vas lui annoncer, il va falloir être sûr de toi, parce que je savais très bien que lui, il voulait pas. Et surtout, reprendre pour de bonnes raisons. Du coup, quand je lui ai annoncé, il était en train de parler de sa retraite, que ça l'inquiétait, il savait pas qui allait reprendre et tout, et que je lui ai dit, pourquoi pas moi? Et que là, gros blanc dans la salle, ça l'inquiétait, déjà de la vie que j'allais avoir, et surtout du fait que je partais à zéro, quoi. Hop, là-bas.
Voilà, Mathilde, témoignage. Clotilde Bateau, c'est intéressant ce qu'elle raconte, justement, le fait de s'imposer dans ce contexte particulier du renouvellement aussi, parce qu'il y a ce très très gros problème aujourd'hui des agriculteurs qui partent à la retraite et qui ne sont pas forcément remplacés. Là, j'allais dire, il y a presque une opportunité aussi à saisir pour les femmes dans ce contexte.
Oui, exactement. Alors, c'est un de mes grands chevals de bataille dans l'association Sol, notamment. Vous l'avez dit, on va perdre 50% de nos agriculteurs d'ici vraiment en grand maximum 10 ans. Donc on est vraiment sur un enjeu démographique urgent. On n'en parle pas suffisamment de cet enjeu démographique. Et voilà, j'en profite pour dire que la crise qu'on vit aujourd'hui doit s'en préoccuper vraiment de manière urgente. Et finalement, on a 60% des personnes qui veulent s'installer aujourd'hui qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui ne sont pas des fils et filles d'eux. Et donc c'est une formidable opportunité pour renouveler, mais aussi pour faire la transition. Et ce qu'on constate parmi ces 60%, c'est qu'il y a une trentaine de pourcents qui sont des femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un formidable levier parce qu'une majorité de ces femmes s'installent sur des modèles qui favorisent des agricultures plus durables, de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, qui, on le sait aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, sont des modèles qui permettent de répondre aux enjeux climatiques parce que, ils sont plus autonomes, plus résilients face aux crises, pas que climatiques, d'ailleurs aussi aux crises économiques.
Ça s'appelle Agricultrice, c'est aux éditions Pérégrine et vous êtes notre invitée Clotilde Bateau cet après-midi. On va voir dans un instant comment exactement s'illustrent ces inégalités concrètement dans ce métier d'agricultrice et puis vous répondrez au message et au témoignage, je l'espère, sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. A tout de suite.
France Inter. Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
On s'est battu notamment avec d'autres copines là, sur le statut des femmes, justement pour essayer de faire en sorte que cette injustice soit corrigée. Moi j'ai dit, c'est souvent, le tracteur, un vieux tracteur de 30 ans ici, était mieux assuré que moi en cas d'accident. Mais c'était complètement débile quand même. Et donc ça se faisait que on se taisait jusqu'au jour où on ne s'est plus tu.
C'est la voix d'Anne-Marie Crollet dans un documentaire de Delphine Pruneau qui s'appelle « Moi, agricultrice », diffusé en 2023 sur France Télévisions. Clotilde Bateau, vous connaissez Anne-Marie Crollet ?
Alors, je ne la connais pas personnellement, mais je serais ravie de la connaître personnellement. Mais ouais. Effectivement, je la cite plusieurs fois dans mon livre.
C'est ça. Quand elle parle de ces tracteurs qui étaient mieux assurés qu'elle-même.
Exactement, oui. C'est vrai qu'elle fait partie de cette génération d'agricultrices qui ont été les premières à se battre pour leurs droits dans un contexte de surindustrialisation de l'agriculture avec l'arrivée des tracteurs et de la surmécanisation. Donc elle a fait beaucoup de choses pour le statut.
Il y a des choses à dire d'ailleurs sur le matériel aussi. Vous en parlez dans votre ouvrage. Un tracteur, est-ce que pour un homme ou pour une femme, c'est exactement la même chose ?
Eh bien, on aimerait bien que ça soit exactement la même chose, mais malheureusement, effectivement, le matériel agricole, il a été fait par et pour les hommes, et donc certaines physionomies. Et donc, il y a énormément d'agricultrices dans le livre, de tout âge hein, d'ailleurs, confondues, qui m'ont donné des exemples de ce fameux tracteur et de la tronçonneuse aussi.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment les deux exemples qui ressortent le plus.
Pourquoi ?
Inadaptés à la fois en termes de poids, des manettes qui sont difficiles en termes de taille, aussi d'accès, mais aussi des manœuvres qui sont parfois difficiles en termes de corpulence à faire. Et puis, finalement, de petits tips qu'on ne leur donne pas, qui sont tout à fait disponibles, mais où, dès la formation professionnelle agricole, en fait, on n'apprend pas à ces jeunes femmes à utiliser et ou à adapter en fait, l'utilisation de ces outils. Et puis, ça les poursuit ensuite tout du long de leur...
D'ailleurs, dans les écoles agricoles, aujourd'hui, elles sont un peu plus nombreuses quand même ou pas ?
Oui, oui. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est a priori face à une féminisation, mais on va retrouver encore une fois cette division genrée, c'est-à-dire qu'il y a des filières, notamment liées aux services, à la transformation alimentaire, qui sont très féminines, là où les filières qui sont d'ailleurs les plus valorisées économiquement, mécaniques, grandes cultures, vont être beaucoup plus masculines. Donc voilà, on voit bien que cette division genrée persiste et qu'il y a un vrai enjeu à rééquilibrer ça. Et puis, on constate aussi que les jeunes femmes sont beaucoup plus diplômées que les jeunes hommes.
Oui. Et ça, alors, ça change quoi pour ce métier d'agriculteur et d'agricultrice ?
Alors, quelque part, pour moi, ça dit quelque chose de la recherche de légitimité. Et je le retrouve vraiment aussi dans les actions qu'on mène avec l'association SOL. Donc, cette quête de légitimité qui est nécessaire pour de nombreuses femmes. Donc, voilà, peut-être le besoin d'avoir tous ces diplômes. Mais ça dit aussi quelque chose sur l'adaptation et la volonté de connaître toutes les techniques qui existent pour ensuite mieux s'installer, mieux s'adapter, mieux répondre aux différentes crises.
Mais c'est étonnant, effectivement, cette répartition des tâches hein, sur les femmes. Vous décrivez des tâches féminines qui sont associées aux soins des animaux domestiques, au potager, à la transformation alimentaire, à la gestion du foyer, tandis que les tâches masculines, c'est le labour, le gros bétail, la construction, et tout ça aussi est plus visible et plus valorisé pour les hommes. Hein.
Alors voilà, c'est plus visible et plus valorisé en termes d'image. Et voilà, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué dans l'écriture du livre, c'est qu'on est face vraiment à une résistance là, sociale et culturelle. Je donne cet exemple-là parce que je suis maman et j'ai voulu acheter des Playmobil à ma fille. Évidemment, comme je travaille sur les thématiques agricoles, des Playmobil liés à l'agriculture. Et voilà, j'ai été frappée de constater que le tracteur était toujours associé à un Playmobil de type garçon. Et que tous les trucs un peu mignons avec les petits animaux, les poules, les lapins, étaient dédiés vraiment au Playmobil de type femme.
C'est ça, les clichés sont tenaces. Hein.
Tout à fait.
Alors vous nous l'avez dit, une personne sur quatre est une femme en agriculture. Cette proportion justement, qu'est-ce qu'elle raconte ? Parce qu'il y a quand même des profils très très différents hein, au sein de ces femmes.
Oui. Alors, il y a des profils très différents, donc avec des statuts très différents, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure. Donc, cette proportion d'un peu plus de 20% de chefs d'exploitation. Alors, je dis chefs à chaque fois, j'insiste sur le E. Parce qu'en fait, voilà, c'est elles qui sont à la tête de leur ferme. Et puis, il y a toute une catégorie, ensuite, comme je disais, d'ouvrières et salariés agricoles. Et ensuite, donc, d'autres catégories de conjointes collaboratrices ou co-exploitantes de leur ferme qui sont des statuts qui sont censés être temporaires, pour lesquelles on ne cotise pas de la même manière, et qui ont du coup des conséquences sociales et économiques pour les agricultrices, notamment celles qui se séparent, qui sont très importantes.
Et ce statut de conjointe collaboratrice, quand il reconnaît justement une participation, il peut entretenir aussi une dépendance structurelle et une grande vulnérabilité. Pourquoi ?
Alors parce que justement, en fait, l'agricultrice cotise moins, elle est moins reconnue statutairement que son compagnon ou la personne avec qui elle est associée. Et donc, ça a des conséquences directes, en fait, sur son salaire. Et les chiffres le disent, hein, aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 29% de moins que les hommes. Allez. Et en fait, cette relation salariale se retrouve ensuite à la retraite. Le pourcentage est un tout petit peu plus important avec le décalage générationnel. Voilà, on est sur des retraites de femmes qui gagnent moins 32%. Voilà, donc il y a déjà une inégalité économique, et puis il y a une inégalité sociale qui fait que, à travers les prêts, c'est le mari ou le compagnon ou la personne avec qui on a associé qui signe tous les papiers. C'est lui qui est reconnu au niveau des techniciens qu'on reçoit sur la ferme, reconnu au niveau du comptable qui conseille aussi la structure économique de la ferme. Et il y a tout un tas d'agricultrices qui m'ont témoigné, en fait, à la fois ce sentiment d'illégitimité, du coup, à agir sur sa ferme.
Et de vulnérabilité aussi.
De vulnérabilité,
hein.
Et encore pire quand on se sépare.
C'est ça.
Puisqu'en fait, on perd tout.
En cas de séparation ou de décès, c'est des situations quasiment dramatiques, en fait, qui se produisent à chaque fois pour ces femmes.
Tout à fait, alors exactement, ça m'a vraiment frappée. Et alors là, vraiment, je tiens à dire que j'ai eu des dizaines et des dizaines de témoignages. Je les ai pas, j'ai pas pu tous les citer. Et puis, voilà, c'est difficile aussi dans le monde agricole de parler de violence économique ou sociale. Mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a énormément de femmes qui, en se séparant, non seulement elles perdent leur statut social dans leur village, elles perdent, par exemple, quand elles sont éleveuses, leur troupeau, le travail quotidien et tout l'amour qu'elles peuvent avoir aussi de ce métier, mais elles perdent aussi économiquement absolument tout, et certaines se retrouvent même à vivre au RSA dans des logements sociaux.
Il y a une étude de la MSA, c'est la Sécurité Sociale Agricole, qui montre que 114 400 femmes mariées à un exploitant sans statut agricole, tout en étant indispensables au fonctionnement de l'exploitation, et tout ça révèle un manque d'information, des lourdeurs administratives, une absence d'accompagnement. Ça aussi, c'est vraiment inhérent au fait d'être une femme agricultrice aujourd'hui.
Exactement, effectivement, il y aurait un vrai travail à faire à la fois au sein de la formation agricole professionnelle pour informer en fait les jeunes femmes des statuts et des risques qu'elles prennent quand elles s'installent et pourquoi elles le font. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a énormément d'agricultrices qui m'ont témoigné le fait qu'en fait, elles n'y avaient pas pensé quand elles se sont installées. Elles ne se sont pas posées la question. Mmh. Et en fait, c'est au moment d'une séparation qu'elles se posent la question et qu'elles se rendent compte de la perversité du système.
Est-ce que les choses commencent un peu à bouger quand même sur ce terrain-là, ou pas ? Est-ce qu'il y a plus d'informations, plus d'accompagnement justement, ou est-ce que ça stagne toujours et la situation est toujours aussi effarante ?
Alors, je dirais que politiquement, la situation stagne et il y a vraiment un enjeu sur ce sujet à ce que les politiques publiques évoluent. Et je sais que la ministre de l'Agriculture va faire des annonces lundi prochain au Salon de l'Agriculture, et personnellement, j'en attends beaucoup.
Et vous pensez que ce seront des annonces en ce sens ?
Je n'en ai aucune idée.
D'accord, okay.
Mais par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a énormément d'associations, et je les cite dans le livre, qui agissent sur le terrain très concrètement. Évidemment, je fais partie de ces associations qui agissent, mais il y a des associations qui, justement, développent des groupes en non-mixité pour informer toutes les agricultrices futures ou déjà installées des possibilités, notamment qu'elles ont statutaires en termes de droits, et là vont mettre vraiment pointer du petit détail sur comment fonctionne le congé maternité, que faire en cas de violence, etc., etc.
On en parlera de la maternité d'ailleurs dans quelques minutes, Clotilde Bateau. On va pour le plaisir écouter cette archive de 1954 autour d'une femme à la campagne.
À la Grande Forêt, nous pratiquons surtout l'élevage. Et c'est moi qui tiens les fichiers sur lesquels sont notées toutes les caractéristiques des animaux de l'exploitation, petits et gros. Cet après-midi, une de nos vaches va sans doute vêler. Je prépare la fiche du veau qui doit naître. Mes petites écritures terminées, je m'occuperai de mon bébé et préparerai le repas du soir. Toutes nos poules sont de la même race. C'est un facteur important de la rationalisation de notre entreprise. Je dois dire que je suis assez fière des résultats que j'ai obtenus. Mais je suis bien obligée de reconnaître que ce n'est pas mon invention personnelle. J'ai appliqué très exactement les principes que j'ai appris à l'école. Au début, on s'est un peu moqué de moi. Mais je me suis entêtée. Et je crois que j'ai eu raison.
Voilà, RTF en 1954. L'entêtement, hein, ça c'est quelque chose finalement qui est une sorte de fil rouge aussi pour ces femmes qui veulent s'installer en tant que paysannes.
Alors c'est vrai que s'installer, c'est pas genré, c'est un vrai parcours du combattant aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme. Par contre, ce qui est certain, c'est que la sociabilisation genrée et cette division genrée rend l'installation pour les femmes encore plus difficile, notamment en termes de formation. On leur apprend pas forcément les gestes techniques, les gestes mécaniques, l'utilisation du matériel, et on n'apprend pas non plus une deuxième chose qu'on entend dans le témoignage, c'est le lien entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mmh. De nombreuses agricultrices ou paysannes m'ont témoigné dans le livre le fait que tout est tellement imbriqué qu'il y a cette espèce de double charge mentale en fait, ouais, invisible. On en parle beaucoup de la charge mentale.
Parce qu'il faut s'occuper de l'exploitation, mais aussi de faire à manger, de s'occuper des enfants.
Exactement. Et donc, en fait, on vient retrouver des inégalités sociales de la société en général qui sont doublées, en fait, pour les agricultrices, parce qu'elles vivent en général sur leur lieu de travail. Et donc, il n'y a plus de frontières entre cette vie personnelle et cette vie professionnelle.
Vous avez étudié les territoires ultramarins aussi, Clotilde Bateau. Qu'est-ce que ça raconte également de ce statut des femmes là, dans le monde de l'agriculture?
Ben, c'est vrai que c'était aussi important pour moi de montrer cette réalité-là, d'autant plus que les territoires ultramarins sont, eux, touchés de plein fouet par les crises climatiques, bien plus encore que nous en métropole. Et en fait, on constate exactement la même chose. Et ce qui m'a intéressé, c'était aussi de comparer avec ce que moi, je peux constater sur le terrain, notamment en Inde, à quel point les femmes en Outre-mer sont dépendantes aussi de nos politiques publiques et bloquées, en fait, pour développer. Donc, un accès au foncier qui est encore plus délétère qu'en métropole. Mais à quel point aussi elles font preuve de collectif pour innover et d'autonomie.
On parlera heureusement des formes d'entraide et de résistance hein, dans ce monde des femmes en agriculture. Et puis, vous répondrez aux messages et aux témoignages qui arrivent pour vous, Clotilde Bateau, autour de ce sujet aujourd'hui dans La Terre au Carré sur France Inter.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
La petite particularité, c'est que je suis à 4 mois et demi de grossesse, donc j'ai le ventre qui commence à s'arrondir. Et donc, physiquement, c'est de plus en plus compliqué quand même.
Pas d'indemnité de congé maternité, mais un remplaçant directement rémunéré par sa mutuelle. Sauf qu'en travaillant 65 heures par semaine, quand elle fait les calculs, Pascaline est bien loin du compte.
Moi, aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est que j'ai demandé 8 heures par jour de remplacement et 7 jours par semaine. Et aujourd'hui, je suis pas du tout sûre de les obtenir, quoi. Dans ces cas-là, soit j'embauche une personne, mais ce sera pas remboursé, soit la deuxième option, c'est de moi-même venir jusqu'à mon accouchement.
Le casse-tête du congé mat, c'était dans les maternelles sur France 5 en 2018. Clotilde Bateau avec cet ouvrage Agricultrice, semer, nourrir, résister. C'est aux éditions Pérégrine. Et c'est vrai que vous retracez dans ce livre l'histoire du congé maternité en agriculture. Longtemps d'ailleurs, il n'a pas été pensé comme un droit, mais comme une charge, c'est ce que vous expliquez, à compenser par du remplacement.
Exactement. Ça fait que depuis 2019 que le congé maternité des femmes agricultrices est le même que n'importe quelle femme française. 2019.
Ouais.
Donc c'est très tardif. Et donc c'est intéressant ce que dit l'agricultrice dans le reportage, c'est que donc il y a à la fois un enjeu du service de remplacement. Donc quand on est enceinte en tant qu'agricultrice, on a la possibilité de se faire remplacer aujourd'hui. Mais faut-il qu'il y ait des candidats et des candidates? Ça c'est la première chose. Faut-il aussi que son activité agricole corresponde en termes d'horaires? Un remplaçant ne fait pas des horaires, notamment quand on est éleveur ou éleveuse, oui, de vélage où il faut parfois rester toute la nuit éveillé ou très tôt le matin, le remplaçant ne peut pas du tout être là. Donc elles sont obligées, et il y a tout un tas de témoignages aussi dans le livre, d'inventer encore une fois une mise en place. Voilà. Et j'ai une agricultrice qui témoigne dans le livre le fait que pour elle, c'est pas possible de faire des enfants.
Oui, c'est ça. Et alors, il y a des grossesses qui sont vécues sans accompagnement du tout. Là aussi, vous avez des témoignages avec une éleveuse éleveuses de chèvres en particulier. Donc ça montre que parfois on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, exactement. Oui, il y a vraiment un problème de choix. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette avancée de 2019 qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment la même indemnité qu'une femme normal, je dirais.
Oui.
Mais en fait, on voit bien que ce service de remplacement n'est pas suffisant pour venir répondre à la diversité en fait, des modèles agricoles que portent les agriculteurs.
Ce qui fait qu'il y a moins aussi, quand on regarde les chiffres des maternités, il y a moins de maternités, les chiffres ont baissé ou pas ?
Alors, je n'ai pas fait ce recensement-là dans mon livre, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que comme il y a une baisse de la natalité généralisée en France, évidemment, ce n'est pas forcément, à mon avis, les agricultrices qui vont renataliser la France.
La question de la retraite, ça aussi, c'est un révélateur assez brutal. Quel montant moyen est-ce que touchent justement les agricultrices et quelles différences apparaissent entre les hommes et les femmes sur ces questions-là ?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une différence à peu près de 32%, avec une moyenne pour les femmes, dans mon souvenir, qui est entre 400 et 500 euros par mois. Donc même pas un RSA, ça dit la difficulté qu'on peut ensuite de pouvoir vivre de ça au quotidien. Alors, a priori, ça devrait tendre à s'améliorer avec la nouvelle génération et l'amélioration des statuts.
Ouais.
Mais on voit bien qu'il y a toujours ces plus de 130 000 femmes sans statut qui vont se retrouver toujours sans retraite au XXIe siècle.
Clotilde Bateau, avant de passer aux questions, parce qu'elles sont nombreuses pour vous, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui émerge justement dans ces groupes d'entraide pour les femmes ? Il y a justement des initiatives dont vous parlez, des groupes de micro-épargne, des maisons de semences par exemple. Il y a des choses concrètes qui existent.
Oui, alors exactement. C'est, par exemple, au sein de l'association Sol, on accompagne des agricultrices, mais aussi des agriculteurs, d'ailleurs, à travers un dispositif de formation qui s'est inspiré des compagnons du devoir, donc le compagnonnage paysan. L'idée est très simple, c'est permettre à des personnes, particulièrement celles qui ne sont pas issues du milieu agricole, d'apprendre aux côtés d'un père, donc d'un paysan ou d'une paysanne déjà très expérimentée, et de pouvoir répondre à ces questions au quotidien et de pouvoir mûrir son projet. Et en fait, on s'aperçoit que ça vient répondre à ce besoin de reconnaissance, de légitimité qui est très important dans un projet d'installation qui, je le rappelle, est souvent très long. On met entre 5 et 7 ans pour s'installer.
Donc il y a des réseaux d'entraide ? Il y a des choses qui existent aujourd'hui,
voilà.
Si vous terminez quand même sur une note
positive. Oui, exactement.
Positive.
Puis, peut-être ce que je peux dire aussi pour celles et ceux que ça intéresse, il y a une formidable cartographie qui a été travaillée par deux réseaux, Réseau CIVAM et la FADEAR, sur un site internet qui s'appelle desgenronlagriculture.fr, qui permet de retrouver justement tous les groupes, notamment en non-mixité, qui existent sur toute la France.
Allez, on passe aux questions. Aux questions et aux messages avec vos notes vocales sur l'appli Radio France, on va écouter d'ailleurs un premier message tout de suite.
Bonjour, c'est Claire de Sillemanche. Ma retraite aujourd'hui s'élève à 646,84 €. Je considère que nous étions les femmes de l'ombre. On travaillait mais on ne nous voyait pas, nous. Les hommes étaient dans les champs et alors ça papotait. Ça c'est un travailleur, voilà. Nous, on était ignorés. Moi, je n'ai pas repris la ferme à la retraite de mon mari. J'ai ouvert un magasin et je me suis éclatée. Bon, au revoir.
Voilà, une femme heureuse, ça s'entend dans sa voix. Merci Claire pour votre message. Clotilde Bateau, un petit mot pour lui répondre.
Oui, effectivement, on sent dans sa voix qu'elle est très heureuse et c'est formidable. Et en même temps, elle raconte la vraie réalité de toutes les agricultrices que j'ai fait témoigner dans mon livre.
Victoria demande, est-ce que l'accès à un emprunt bancaire est plus difficile pour les paysannes ?
Oui, l'accès à un emprunt bancaire est beaucoup plus difficile pour les femmes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes s'installent notamment sur des fermes beaucoup plus petites. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il y a d'ailleurs de nombreuses agricultrices qui ont témoigné avoir eu des difficultés de confiance en fait au niveau des banquiers, mais pas seulement, aussi au niveau des comptables qui gèrent les fermes, dont certaines m'ont dit je suis allée avec mon mari au rendez-vous alors qu'elle ne s'installe pas avec lui, je le précise, pour être sûre qu'il ait confiance en mon projet.
Catherine dit, concernant les agricultrices, il faut se battre pour que la MSA daigne verser la pension de réversion qui est due aux veuves elles-mêmes agricultrices retraitées. C'est pas le cas ?
Non, alors effectivement, là, elle vient soulever un problème statutaire, encore une fois, de reconnaissance entre la question d'être chef d'exploitation ou co-exploitante ou aide familiale. Voilà, là, on est vraiment sur une problématique statutaire.
On va écouter le message de Pierre.
Bonjour, Pierre de Moutier-au-Perche. J'appelle moi car je suis fier de ma femme qui est dans le parcours à l'installation et moi, j'ai comme statut sur cette exploitation que aide familiale. Les rôles s'inversent des fois et je suis prêt à tout pour l'aider et qu'elle y arrive. Voilà, merci, bonne journée.
Merci beaucoup Pierre pour votre message, Clotilde Bateau.
Eh bien oui, c'est bien qu'il y ait des personnes comme Pierre aussi qui témoignent de ça. Je pense à Inès là dans mon livre qui a fait, elle, pour le coup, le témoignage inverse où son ex-compagnon justement lui a refusé pendant un temps qu'elle prenne le statut de chef d'exploitation et que lui devienne co-exploitant. Ouais. Donc bravo Pierre.
Catherine nous dit, lors du GR Grande Randonnée de l'échappée jurassienne de Dole à Saint-Claude sur plus de 200 kilomètres, j'ai été frappé par le nombre de femmes agricultrices à bord de tracteurs ou autres engins, certaines même avec un enfant à côté d'elles, femmes aux dons d'ubiquité et multitâches, bravo, trop longtemps restées dans l'ombre.
Eh bien oui, je trouve qu'on devrait beaucoup plus voir ces images de ces femmes sur les tracteurs, utilisant des machines. On en a hein, des documentaires, des podcasts, mais c'est vrai que ce n'est pas le premier réflexe
c'est ça.
Qu'on a.
Et le jour où on sera plus étonné justement de le voir, ce sera aussi bon signe. Hein.
Exactement.
Roger nous dit, ma grand-mère avec 14 enfants ne travaillait évidemment pas au champ. Elle avait son rôle, sa mission par ailleurs est donc inexistante en tant qu'agricultrice. Autre témoignage.
Ben oui, tout à fait. Voilà, il montre la réalité de des grands-mères rurales. Voilà, effectivement.
Jean-Paul dit une réaction. J'ai partagé il y a peu un repas après un chantier participatif de replantation de haies. En face de moi, il y avait une responsable de la Confédération paysanne. Elle m'a expliqué que le montant des cotisations de sa fille pour un mois de salaire en emploi de cadre représentait un an de ses cotisations en tant que femme d'exploitation agricole, ce qui ne peut ouvrir que des droits de sous-classe sociale. À quand de vrai cotisation, c'est son combat depuis des décennies pour pouvoir juste ouvrir un débat sur la question.
Oui, voilà, c'est vrai que c'est ce que je disais, il y a un vrai enjeu en termes de politique publique à réformer encore les statuts, on ne va toujours pas assez loin, et c'est vrai que je l'ai pas dit, hein, mais historiquement, l'évolution des statuts, elle est très tardive, hein, on parle des années 80, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
Sébastien, on termine avec ce message, un témoignage pour ma sœur conjointe d'exploitation qui, voulant divorcer, s'est vue refuser l'accès aux comptes en banque, à la comptabilité et aux inventaires bovins, et ceci alors qu'aucun jugement de divorce n'était prononcé.
Et oui, alors pourquoi ? Parce que, effectivement, le compte bancaire devait être au nom de son ex-compagnon.
Merci beaucoup en tout cas Clotilde Bateau, bravo pour cette enquête, ça s'appelle Merci. Agricultrice, semer, nourrir et résister, c'est aux éditions Pérégrine dans la collection Genre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, merci beaucoup aussi à Joël Levert qui a préparé aujourd'hui ce dossier, Pauline Laverdure à la technique, Jérôme Boulet qui réalisait l'émission et Lucie Sarfati pour la coordination et la programmation de La Terre au Carré.